D'abord, que je vous dise qu'on ne risque rien à livrer le secret professionnel, puisque on ne livre pas le moyen de s'en servir.
Secret professionnel par Charles Danzig. Je vais citer un auteur prudent et sinueux de l'Antiquité qui n'est pas sans rappeler François Mauriac, dirais-je, au risque de faire sursauter mon invité. Au reste, Mauriac a su prendre des risques, comme d'ailleurs cet homme à qui il ressemble littérairement et qui est Cicéron. Dans son livre sur l'amitié, Cicéron écrit « Mon sentiment est d'abord que l'amitié ne peut exister que chez des hommes de bien. On dit qu'il n'est homme de bien que le sage, soit, mais on entend par là une sagesse qu'aucun mortel n'a jamais pu atteindre. Pour nous, c'est la pratique et la vie de tous les jours que nous devons envisager, non pas fiction et ambition. » Mon invité, quoique son nom en latin veuille dire avisé, rusé, n'a pas toujours été prudent, il faut parfois l'être, ni sage, il ne faut jamais l'être. Il a pris des risques, et notamment le risque de l'amitié. Il l'a fait avec quelques personnes, et par exemple, écrit-il dans un livre qui vient de paraître, avec Francis Ponge. Plus jeune, il a été ami avec Jean-René Huguenin. Ce livre nous parle essentiellement d'une amitié avec un moins écrivain et plus intellectuel que ces deux-là, Roland Barthes. Comment un écrivain peut-il être ami avec un écrivain? Est-ce comme les couples d'acteurs qui durent généralement peu à cause de la concurrence des narcissismes, ou bien s'agit-il d'autre chose? La part d'abandon que comporte l'amitié, ou ce qu'on appelle ainsi, n'est-elle pas, quand on sait l'engagement de tout son être que met un écrivain dans ses écrits, la preuve qu'une amitié est peut-être la plus sincère et la plus durable de toutes quand elle a lieu entre écrivains? Quel est le secret professionnel de l'amitié dans la littérature? À l'occasion de la publication de son dernier livre « Amitié avec Roland Barthes », conjointement avec la réédition du livre du même Barthes, Solers écrivain, aux éditions du Seuil, je reçois donc pour en parler Philippe Solers. Philippe Solers, vous êtes né en 36, Barthes était né en 15, 20 ans de différence entre gens de lettres, ça me paraît assez bien, la concurrence de la jeunesse n'a plus lieu d'être, l'un réussit, pour employer un mot imparfait ou pas, l'autre va réussir ou pas, et on peut avoir des rapports détendus, l'aîné peut aider sans perdre, le cadet peut demander en plaisant. En quelle année et en quelles circonstances avez-vous connu Roland Barthes, Philippe Solers?
Écoutez, c'était très tôt, dès le début des années 60, j'avais déjà lu de lui des livres que je trouvais extraordinairement intéressants, qui étaient Le degré zéro de l'écriture et surtout Mythologie. Mythologie m'a tout de suite paru l'œuvre de quelqu'un vers qui j'étais forcément attiré, dans la mesure où il démystifiait le mensonge social, sa publicité incessante et tout ce qui pouvait apparaître comme indépassable sur le plan de la perception sociale. Ça m'intéressait pourquoi ? Parce que j'avais l'impression, probablement depuis l'enfance, que la société mentait, qu'elle était là pour mentir, pour dérober les choses, pour ne pas parler de ce qui importe, voire même pour susciter sans arrêt une idéologie de remplacement, comme c'est encore le cas aujourd'hui, où nous sommes revenus à l'une des époques les plus réactionnaires de l'histoire de ce pays. Donc nous revenons en arrière, et c'est pour ça que j'ai tenu à écrire ce livre d'amitié. Alors, pourquoi cette amitié? Eh bien, il faut se demander pourquoi Roland Barthes, qui était un écrivain déjà, un intellectuel déjà fort connu, a subi une campagne de presse invraisemblable au moment où il s'est occupé de Racine.
C'était quand? Quelle année?
C'était en 1963-4-5, par là. Et tout de suite, alors, il y a eu une polémique étonnante. Et ça m'a renforcé dans ma conviction qu'il avait raison de dire qu'il y avait une autre façon de lire Racine que dans cette université extraordinairement figée et pétrifiée qui va voler en éclats quelques années après dans les événements qui sont oh attention, il faut surtout les évacuer, mai 1968, c'est horrible, il faut éradiquer tout ça. Donc pourquoi a-t-il senti nous nous sommes rencontrés, je à ce moment-là, nous avons commencé à parler.
Quelle était l'année, Philippe Soler? C'est, et où vous deux?
On s'est rencontrés là, au moment de Suracide, c'est-à-dire, nous sommes en 1966, je crois.
Et vous avez fait une démarche pour le voir? Vous avez...
Non, j'étais, j'accompagnais Ponge dans une de ses conférences. Tout ça, vous savez, on n'a pas idée à quel point tout était marginal et
Ponge était marginal.
Et continue à l'être. Francis Ponge, personne ne s'occupait de Francis Ponge. Il donnait des leçons ouvertes où il y avait 8 personnes à l'Alliance française, boulevard Raspail. J'avais une chambre d'étudiants en face. Je me suis déplacé pour écouter ce poète admirable que dont j'avais lu quelques extraits. Parler devant 10 personnes qui s'en moquaient, je crois, éperdument. C'est à lui que j'ai présenté mes premiers textes. Ah, c'est bien ce que vous faites. Je vais envoyer ça à Paulin. Bon.
Et alors, il repart. Barthes était là?
Non. Là, une fois après, il y avait une autre séance et Barthes est venu écouter. D'où venait l'attention de Barthes? Voyez comment la littérature se transmet. Barthes pour Ponge. C'est, et qu'évidemment, il avait lu le texte de Sartre dans Situation, sur Ponge. Donc, voyez, la littérature se fait par contamination singulière et par rencontre de personne à personne, ce qui semble improbable de nos jours, où tout est irradié par la reconnaissance sociologique et le bavardage. Par conséquent, il se trouvait très isolé, le Monde l'attaquait constamment, défendant son Picard.
Le journal Le Monde.
Bon, passons.
Alors, Philippe, dites-moi très précisément, parce que ça c'est intéressant, la rencontre physique. Donc vous l'avez vu dans une rencontre avec Ponge, c'est ça?
Oui.
À quoi il ressemblait? Quel effet vous a-t-il fait quand vous l'avez vu?
D'abord, c'est l'effet corporel sans voix ne peut pas décrire Barthes. De même que l'effet corporel sans graphie. Ce qui m'a séduit par la suite, c'est non pas son apparence physique, après tout pourquoi pas, mais il était pas mal, hein, il était assez beau, massif, mais la voix extraordinairement mélodieuse, travaillée, c'est quelqu'un qui jouait du piano, comme vous savez, et qui, avec une méticulosité extrême qui nous paraît folle aujourd'hui, tenait des fiches de sa belle écriture bleue, etc.
Qui est reproduite dans votre livre.
Oui, parce que je suis très content qu'on voit un petit peu sa graphie.
C'est-à-dire, pardon de vous interrompre, il faut que j'explique que dans votre livre, c'est un livre sur Barthes, avec des essais sur Barthes, et vous reproduisez aussi une correspondance avec des facsimilés.
Une correspondance émouvante, je trouve, d'une certaine façon, parce qu'on voit qu'il y a des échanges extrêmement précis sur ce qu'il écrit, et qui passe par des conversations multiples, parce qu'on allait dîner une fois, au moins une fois par mois, et dès qu'on dînait, c'était la littérature. Comment est-ce qu'on va faire avec l'ignorance qui se propage déjà? Eh bien, il faudrait refaire l'encyclopédie, voyez-vous. C'est ce que j'essaye de faire depuis qu'il est mort, parce qu'il l'aurait fait. Il y a un texte de lui magnifique, superbe, que personne ne connaît, parce que plus personne ne connaît, pas encore rien, ou presque. C'est un texte sur les planches de l'encyclopédie. Donc, les Lumières. Les Lumières, ça m'intéresse, voyez-vous, parce que je viens de Bordeaux, il y a Montaigne, il y a la Boétie, il y a Montesquieu.
Ah, voilà, vous me faites une explication nataliste de la pensée qui n'est pas exacte, Philippe. Non, ça,
je vous fais une réflexion qui porte sur la géographie, sur la situation géographique. Il y a un texte de Barthes très beau qui s'appelle « Lumière du Sud-Ouest ». Et là, ne me traitez pas de régionaliste, sinon je vous étrangle. Quand la France s'effondre, elle vient où? Dans le Sud-Ouest, à Bordeaux. En 1870, 1914, 1940, la France est morte, elle vient à Bordeaux.
Alors, on pourrait dire que Bordeaux est la capitale de la défaite, Philippe Soler.
Et
c'est un homme du Sud-Ouest qui vous parle.
Capitale de la catastrophe, en tout cas.
Je vous parlais tout à l'heure du physique de Barthes, parce qu'il y a une phrase très intéressante dans votre livre à propos de Maurice Blanchot. Vous dites que vous avez une expression très amusante, un coup de foudre d'antipathie. Est-ce que vous avez eu un coup de foudre de sympathie pour Barthes?
Après l'avoir entendu parler.
L'amitié avec Roland Barthes, c'est un beau titre. Pourquoi avez-vous choisi ce titre? Ça veut dire que vous sous-entendez par ce titre que c'est lui qui vous a apporté quelque chose?
Je m'efface, et je pense que c'est plus décent. Et d'ailleurs, ça commence par le chagrin que j'éprouve au moment de sa mort. Et l'amitié qu'il m'a, en somme, témoigné, tout au long de sa vie, malgré mes acrobaties parfois très contestables, mais passons. Non, c'est son amitié à lui qui m'intéresse. La mienne s'ensuit puisqu'il y répond.
À un colloque de Cerisy en 1977, Barthes a relié l'amitié à la notion grecque d'akouloutia et voici ce qu'il dit. Akouloutia, le dépassement de la contradiction, j'interprète la levée du piège. Or, akouloutia a un autre sens. Le cortège d'amis qui m'accompagne me guide auquel je m'abandonne. Alors c'est très beau cette notion d'abandon et avez-vous le sentiment qu'il s'est abandonné avec vous et vous-même d'ailleurs n'êtes pas le genre d'homme qui s'abandonne?
Pas du tout. C'était pas une question d'abandon, c'était quelque chose... Là, vous trouvez quelque chose qui, chez Barthes, était tout à fait évident. Il a écrit là-dessus, fragment d'un discours amoureux, etc. etc. C'est-à-dire, il s'entourait, en effet, d'un confort d'amitié. Et donc, il avait autour de lui toute une cour que je ne fréquentais nullement.
Non.
Quand on se voyait, c'était avec nos différences, qui sont grandes, non seulement de sexualité, mais aussi... de religion, puisque c'est un protestant et je suis un catholique, ça n'avait aucune importance. Qu'est-ce qu'on faisait ? Et c'était pour ça que c'était intéressant, l'intellectualité des relations, la passion pour la littérature était immédiatement beaucoup plus intéressante que tous les rapports sociaux de copinage ou d'amitié ou d'amicalité ou de cours. Donc là, c'était à l'écart. C'était très beau, on avait rendez-vous, il prenait son cigare, qu'il allait fumer par la suite, et immédiatement on était dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Puisque, et voilà ce qu'il faut, je pense, penser de lui, c'est que la littérature, c'est la guerre... Ce n'est pas la paix, ce n'est pas la... non, c'est la guerre. Alors, la guerre contre qui ? Donc, c'est contre quoi ? Qui fait l'amitié. On est amis contre quelque chose qui vous infecte.
Vous croyez que c'est suffisant ? On n'est pas amis pour aussi, puisque vous venez de nous dire on est amis pour la littérature.
Non, on est amis contre les pressions ou les censures ou les clichés de la société qu'elle veut vous imposer avec des identités qui sont toujours extraordinairement fallacieuses. Le dernier texte qu'il écrit sur moi au Collège de France est tout à fait prophétique. Il dit Solaire, il est drôle, il n'est pas comme Gide. Gide, c'est l'hésitation, c'est l'image stable du mouvant. Solaire, avec des attitudes invraisemblables, il lutte contre l'image. Et il ne veut pas se laisser capter par l'image... L'image, déjà, vous rendez compte, 1978. Or, la société veut toujours sauver l'image.
C'est là qu'il parle d'oscillation ?
C'est l'oscillation, c'est-à-dire, on ne peut pas... Solaire, c'est indéfendable, parce que... C'est-à-dire libre, en fait, dans ce qu'il pense. Parce qu'il peut faire ci, il peut faire ça, il zigzague, il ne se laisse pas capter. Capturer.
Nous allons entendre Roland Barthes parler de sa découverte conjointe de l'amitié et de la lecture. C'était au sanatorium de Saint-Hilaire-du-Touvet où il était soigné pour une tuberculose et c'est extrait de sa radioscopie par Jacques Chancel du 17 février 1975.
Radioscopie, Roland Barthes. À Saint-Hilaire-du-Touvet, au sanatorium des étudiants, dans l'Isère, j'ai fait, si vous voulez, deux expériences qui sont très importantes. La première, c'est l'expérience de l'amitié. On vit avec des gens de votre âge pendant des années. Souvent, on cohabite dans la même chambre que deux ou trois d'entre eux. On les voit tous les jours. Et ce qui vous soutient, c'est l'affectivité profonde qui se développe dans ce milieu-là. L'affectivité avec ses joies, avec ses problèmes, avec ses complications, je dirais avec tout son aspect romanesque précisément. Et puis alors la seconde expérience, bien sûr, c'est celle de la lecture. Que faire d'autre, on lit. C'est une époque où j'ai beaucoup lu, où j'ai lu surtout des classiques français ou étrangers, où j'ai commencé à écrire un petit peu pour la revue des étudiants qui était en sanatorium, qui s'appelait « Existence ». Et donc, j'ai lu par exemple en sanatorium toute l'œuvre de Michelet, sur laquelle j'ai travaillé ensuite. Ça a donc été très important pour moi.
Philippe Solers, une particularité, je dirais pas une singularité, les singularités ne sont pas là, mais de Barthes, et vous nous parliez de sa voix tout à l'heure, et précisément son phrasé, cette voix, et ces très légères traces d'accent du sud-ouest, comme, pardonnez-moi, mais je peux en avoir, ou comme François Mauriac que vous avez connu en avait, mais vous pas. Comment se fait-il pour parler
tout de même, si je vous dis déjeuner, on va déjeuner, non? Je peux le faire. Mais bon, c'est surmonté. Bordeaux est la capitale.
Il y a une petite phrase d'ailleurs très moqueuse à propos de Bordeaux et Bayonne dans votre livre.
Oui. Là, vous avez entendu quelqu'un qui vous parle du sanatorium. Remontons avant pour la question politique sur laquelle je voudrais insister. Barthes a 19 ans en 1934. Il est élève lycéen au lycée Louis-le-Grand. Vous vous rappelez sans doute que 1934, c'est le comble des émeutes fascistes à la Concorde, etc. Et qu'est-ce qu'il fait avec des amis? Il fonde un groupe de résistance antifasciste à cet âge-là, 19 ans. Ce qui est tout à fait étonnant dans l'époque considérée. Par la suite, c'est pour ça que dans mon livre, L'amitié de Roland Barthes, il y a un texte qui s'appelle L'antifascisme de Barthes. Puisqu'on cause de tout ça beaucoup aujourd'hui, n'est-ce pas, paraît-il, Marine Le Pen, ce que vous voulez, n'importe, les intellectuels glissent à droite, blablabla. Eh bien, voilà ce que c'est que le physique de Barthes. C'est quelqu'un qui donc a appris très tôt, il en parle au sanatorium, qui a appris très tôt la vulnérabilité et la précarité de la vie humaine, d'ailleurs, voilà. Et ensuite, c'est tout discours qui marche idéologiquement uniquement par cliché et récusé. Que ce soit ce qui se publie dans Elle, ou aujourd'hui dans Paris Match, ou ailleurs, que ce soit le réalisme socialiste d'André Stille, par exemple, etc. Que ce soit l'abbé Pierre, personnage culte de la société, que ce soit des automobiles, etc. Donc, on est dans le clichisme. On ne peut pas supporter d'être dans le clichisme si on a l'oreille attentive et si on voit la grimace qui se profile derrière. Donc on est très loin de ça, puisque nous sommes retombés 50 ans en arrière, sinon 60, car nous sommes de nouveau dans le clichisme, la stéréotypie. Alors, Barthes aurait été, à mon avis, je peux le faire parler, il aurait été excellent. En regardant ce qui se passe maintenant dans la communication et l'effondrement du sens même du langage. Le fait de faire des phrases et comment. Il a un style extrêmement étudié, classique, bon, tout à fait. C'est des études, c'est du latin, c'est du grec. Il n'y a plus de latin, il n'y a plus de grec, il n'y a plus rien, il n'y a plus de français, voilà. Ah,
arrêtez, Philippe. Est-ce que vous voulez pas...
Mais j'en ris.
Oui, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que...
Regardez ce que Barthes aurait fait dans Mythologie, avec la famille Le Pen, par exemple. Ça serait un chef-d'œuvre.
Il y a un mot qui n'est pas dans votre livre, mais qui me vient à l'esprit, et qu'on pourrait peut-être appliquer à Barthes, dites-le-moi, c'est que cet être si délicat, qui était un être profondément délicat, était aussi quelqu'un de très courageux.
Oui, bien sûr. Il fallait l'être pour résister à ce qui lui est tombé dessus constamment, un peu moins lorsqu'il a été élu au Collège de France, c'est-à-dire vraiment le temple. Bon, c'était Bergson, c'était tout ça. Mais non, il a tenu. Pourquoi? Parce que c'était tout le temps... C'est la page, c'est la graphie. On commence à penser en écrivant. Et quand on écrit, on pense plus loin que la philosophie. On essaye, on est dans la lecture des classiques, il le dit là. Il a beaucoup lu, et Gide, oh combien, et pas seulement. Et Michelet, il a bien raison d'en parler, son Michelet est un chef-d'œuvre. Le Racine est très, très bon. Le Balzac est inouï. Et puis, surtout le livre essentiel qui est republié aujourd'hui, c'est le Japon. C'est-à-dire l'expérience du Japon et l'expérience asiatique au Japon était très, très importante.
Bon. Le Japon, Philippe Solers, c'est pas loin de la Chine, si je puis dire, et vous parlez de ça dans votre livre. On sait que vous avez fait ensemble un voyage en Chine, autant, pour employer votre mot, de vos acrobaties là-bas. Et ce qui est très amusant dans le journal posthume de Barthes, c'est qu'il s'emmerde quand il est avec vous. Vous en souvenez de ça?
À mourir, oui. Pourtant, passer 3 semaines à moi, loin de ses repères habituels, me paraît faisable, si on a le sens de, des paysages, des...
Non, là, parce qu'il n'était pas casanier.
Il voulait aller au Japon, il voulait aller dans les magasins, il voulait avoir une vie un peu sensuelle, etc. Bon, alors là, c'était pas le moment. Vous remarquez que le cher Roland Barthes trouve qu'en Chine, il y a trop de femmes et il y a trop d'enfants. Alors, c'était pas mon sentiment, mais je trouve que là, il était un peu aveuglé par la moitié du ciel, mais pas la bonne.
Philippe Soler, la politique est une part très très importante de votre livre, l'amitié avec Roland Barthes. Vous parlez beaucoup, parce que c'est un livre sur cette amitié que vous porte Roland Barthes, mais c'est aussi un livre sur les temps contemporains et sur ce que vous appelez le retour du fascisme français, qui est indubitable. Vous avez écrit La France moisie, vous parlez à quelqu'un qui a écrit du populisme en littérature, nous savons ce que c'est. Est-ce que vous voulez à cette occasion m'expliquer cette phrase qui a été excessivement reprochée à Roland Barthes et qui est le langage est fasciste.
La langue.
La langue.
Vous savez qu'il a fait un cours important sur un concept qu'il a défini, le premier, qui vient d'être reconnu comme particularité sexuelle, hein, d'ailleurs. Vous avez appris cette
nouvelle. Non, apprenez-moi ça.
Désormais, vous avez le droit d'avoir un sexe neutre.
Ah oui.
Et les cours de Barthes, là, toujours prophétiques, étaient sur le neutre, pas sur le plan sexuel, quoique. Le neutre, ça veut dire qu'on neutralise tout ce qui peut être boursouflé, cliché, etc. Et que la langue elle-même nous obligerait, d'une certaine façon, à nous exprimer d'une façon inadéquate à elle-même. Donc je crois que c'est ça que ça voulait dire. C'est une formule qui a désemparé tout le monde. Personne n'y a rien compris. Mais enfin, c'était quelqu'un quand même, vous savez, qui a fait quand même beaucoup de linguistique. Voilà, bon. Donc il savait un peu de quoi il parlait. Mais j'ai entendu, moi, ce qu'il voulait dire. C'est-à-dire que toujours la même chose, c'est que du moment qu'on parle, on a tendance à parler à côté, etc.
Oui, puis tout lexique est une imposition.
À ne pas entendre ce qu'on dit. Voilà, et c'est tout.
Il y a une très belle phrase dans votre livre qui est « Il a vécu au paradis, Barthes, au paradis avec sa mère oui. ». Étant donné que ça l'a aussi empêché de vivre pleinement sa sexualité, est-ce qu'on ne peut pas remplacer le mot et dire « Il a vécu un enfer, Barthes, un enfer avec sa mère » ?
Je ne crois pas. Je crois qu'il faut tenir compte des époques et que, si vous parlez d'homosexualité, qui dans son cas était très très spécifique. On a tort de faire des ensembles avec les soi-disant sexualités communes. Il y a pas, on dit le groupe untel, le groupe. Bon. Il n'était pas comme ça. Hein. Il n'était pas du tout militant. Il avait peur que sa mère l'apprenne. Enfin, ce qui prouve que l'époque revenait
enfin,
très loin.
Philippe, il y avait eu André Gide avant, quand même. Faut pas non plus.
Oui, mais André Gide n'était pas dans. Je n'ai jamais vu Barthes être corridonien, vous comprenez, c'est-à-dire militant, d'une certaine façon.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on pouvait dire, quand même.
Mais Gide a été très... On pouvait dire, oui, mais ça n'a pas été de soi, enfin, quand même.
Non, mais Barthes aurait pu le faire, il avait une timidité, une gêne, c'est pas si
je
grave.
Je ne pense pas qu'il voulait là encore, c'eût été un geste militant, et si...
Militant de dire, de ne pas dire, de laisser comprendre.
Il aurait défendu une cause à ce moment-là qui n'était pas la sienne.
Mais ce n'était pas une cause, c'était un État.
Oui, mais c'est un État qui ne supporte pas, enfin, si je peux deviner ce qu'il en pensait, qui ne l'a jamais conduit à se sentir comme qui que ce soit. Hein. Donc, Barthes. C'est le système, voilà, Barthes. Je crois que le problème qui nous quitte maintenant, c'est d'être attentif aux singularités, quelles qu'elles soient, et dans tous les domaines.
Philippe Soler, je voulais vous poser une autre question, pas si loin de ce dont nous parlons à l'instant. C'est, vous n'aimez pas l'idée de souffrance dans la création. Or, il y avait quelque chose d'élégiaque, malgré tout, dans Barthes et de souffrant. Comment est-ce que vous vous arrangez avec ça ?
Eh bien, écoutez, je trouve que... C'est pour ça qu'il a créé ce concept de neutre et qui préservait l'affectivité et, il faut bien le dire, la sentimentalité. Bon, ce qui n'est pas du tout dans mes cordes, je ne joue pas cette musique-là, c'est pas Schumann pour moi, c'est Bach. Bach sentimental, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc là, on était très différents, et je lui ai fait remarquer, d'ailleurs il acceptait très bien ce genre de critique, que quand je lui disais par exemple un fragment des discours amoureux, mais je lui dis vous savez bien que alors c'est Freud, oui bien sûr, mais la haine est plus ancienne que l'amour, hein, voilà. Oui. Et je lui faisais remarquer que ce concept de Lacan, la haine amoration, dont je suis souvent l'objet d'ailleurs, HANAMORACTION, la haine amoration est quelque chose qui est intéressant. Barthes était l'ennemi radical, physique, viscéral de toute hystérisation, de l'hystérie. C'était sa hantise. Ah, l'hystérie, le babil, l'arrogance des paumés, et surtout l'hystérie. Il avait une conscience aiguë, forcenée, sensible, étonnante de l'hystérie. Et pourquoi m'a-t-il gratifié de son amitié ? C'est que je peux être en effet assez éloquent ou agité, mais jamais hystérique. Donc nous étions pour la raison, les Lumières avec un L majuscule.
Est-ce qu'un point commun entre vous deux, Philippe Solers, car après tout, vous refusez, vous êtes bachien, si on peut dire, et vous refusez la sentimentalité, mais en même temps, vous parlez de Freud, qui est un analyste de ce qu'on a éprouvé, et vous ne dites pas non plus tout de vos souffrances et de ce que vous avez dans votre vie qui pourrait, après tout, vous conduire à écrire. Est-ce que un point commun...
Je suis dans l'affirmation.
Non, pas du tout. Il y a des choses de votre vie que vous ne dites pas et vous en avez parfaitement le droit.
Mais
ce que je veux dire, il y a des choses tragiques dans votre vie dont vous ne parlez jamais. Et est-ce que ça n'est pas un point commun avec Barthes que vous avez qui ne disait pas tout non plus dans un autre ordre ? Est-ce que ça n'est pas, au fond, une chose, un mot qu'on ne vous applique jamais et qui va peut-être vous choquer, qui est une forme de pudeur ?
Ah oui, j'aime beaucoup la pudeur. Elle met les choses en chemin.
Philippe Solers, le secret de l'amitié entre écrivains n'est-il pas résumé dans cette belle question que posait Barthes dans une revue que vous connaissez qui s'appelait Telle Quelle ? Il y a d'ailleurs un beau passage sur les questions dans votre livre. Cette question, la voici. Si je n'avais pas d'amis, si je n'avais pas à écrire pour eux, aurais-je encore le courage d'écrire ?
Je crois que c'est très, très vrai. Encore une fois, c'est l'expérience de la singularité, inassimilable, même dans un ensemble qui vous dirait qu'il a les mêmes goûts que vous. C'est la solitude de cette singularité, c'est la solitude de l'écriture. Enfin, quand même, vous savez bien qu'on est... On est seul, et bon, la société vous court après ou vous rejette, mais enfin, on est seul. Et il avait une expérience très, très forte. La vie est une expérience, quand on sait ça. La vie elle-même est une expérience. Donc, je crois que c'est ça. Et il était très, très, très à l'écoute de qui pouvait l'entendre. Voilà, c'est tout. Et donc, c'est comme ça que naissent des amitiés tout à fait invraisemblables, même de personnalités qui peuvent être différentes, mais qui partagent le même passion pour la singularité et la solitude. Et là, il en connaissait un bout.
Philippe Solers, c'est pour finir. Accepteriez-vous de faire ce que Barthes a fait pour vous ? Voudriez-vous écrire un Danzig écrivain ?
Alors, ça me paraît prématuré, mais c'est en bonne voie. Ce Danzig est en plein renouvellement. Il faudrait lui demander pourquoi. Il faudrait qu'il me parle davantage de lui.
C'était Secret professionnel, le 190e. La semaine prochaine, je parlerai du secret professionnel du sport et de la façon dont on en parle. Réalisation Clotilde Pivin. Attachée d'émission Daphné Abgral. Prise de son Philippe Palares. Recherchina Catherine Louboutin. Dans un instant, Joël Gaillot. Une saison au théâtre.